Bonsoir Fabienne Synthèse.
Bonsoir Charline, à demain, la petite bande comme d'habitude, avec plaisir évidemment. Pour nous c'est parti, le 18-20 de France Inter est ouvert, poussez la porte, c'est par ici, bienvenue sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord le premier grand journal de la soirée présenté par Hélène Roussel. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
L'essentiel de ce mardi 9 juin commence avec un cortège qui s'élance.
Manifestation contre le racisme, les violences policières, hommage aussi à George Floyd au moment de ses obsèques aux États-Unis à Houston, des rassemblements un peu partout en France. Nous sommes place de la République à Paris dans une minute. La chèvre et le chou, ou comment apaiser la colère dans la rue et rassurer les forces de l'ordre. Le grand écart du Premier ministre Édouard Philippe ce matin à Évry en banlieue parisienne et cet après-midi à l'Assemblée nationale, vous l'entendrez. Le seuil de pauvreté existe en France, pourquoi pas celui de la richesse? L'Observatoire des inégalités l'a établi à 3 400 € par mois, on y reviendra. Et puis dans ce journal aussi, Anvers en Belgique qui déboulonne les statues du passé colonial et puis Marseille où les objets du confinement entrent au musée.
À 18h15, un jour dans le monde, pendant qu'on enterre George Floyd et qu'on manifeste aussi en France, c'est sur les sportifs américains que nous avons envie de nous arrêter, le football, la NFL, la NBA et d'autres qui ont fait entendre leur voix. Et c'est pas si fréquent. Colin Kaepernick a été longtemps le seul à mêler sport et politique contre le racisme dans les années très récentes. On y va avec notre premier invité et aussi avec le basketteur Alexis Agençard. À 19h20, le téléphone sonne, on parle sécheresse ce soir. On en parle déjà pour cet été. On sait que les prévisions sont mauvaises et que de toute façon, le réchauffement climatique fait que notre demande d'eau dépasse nos ressources. Comment éviter les guerres de l'eau? Comment économiser? Peut-on imaginer une agriculture moins assoiffée, moins irriguée? Peut-on réduire la consommation des centrales énergétiques? Et si on parlait aussi tarification, comment mieux partager? 01 45 24 7000.
France Inter.
Des manifestations donc en hommage à George Floyd et contre le racisme dans la police.
Comme un écho qui traverse l'Atlantique à l'heure pile où commencent les obsèques de George Floyd à Houston, Texas, c'est-à-dire maintenant. Plusieurs rassemblements prévus un peu partout en France, de Lille à Grenoble en passant par Dijon ou Angers, à Paris, place de la République, malgré l'interdiction sanitaire. SOS Racisme, mais aussi des associations, des organisations étudiantes ou encore certains partis politiques ont appelé à la mobilisation. Bonsoir Mathilde Oimi.
Bonsoir Hélène.
Beaucoup de jeunes autour de vous ce soir, quelques têtes connues aussi sont déjà là.
Oui, Jean-Luc Mélenchon notamment, qui vient d'arriver ici, place de la République. On attend d'autres personnalités issues, vous l'avez dit, de tous les partis politiques de gauche, syndicats également et organisations étudiantes qui ont rejoint cet appel de SOS Racisme. Le rassemblement doit débuter dans pas longtemps par 8 minutes 46 de silence. La longue asphyxie de George Floyd aux États-Unis a vraiment marqué les esprits, explique Khadija, venue manifester.
C'était pas le premier, malheureusement ce sera pas le dernier, mais qu'on ait le film entier de sa mise à mort et qu'on le voit succomber, qu'on l'entende dire qu'il peut pas respirer et appeler sa maman, ça a bouleversé tout le monde. Si ça avait pas été George Floyd, s'il avait pas été noir, les choses ne se seraient certainement pas passées comme ça. Il peut y avoir de la colère, mais c'est pas le but. Le but c'est vraiment de dire aujourd'hui, posons les problèmes sur la table.
Parler, dialoguer, alors que les premières annonces de Christophe Castaner pour réformer la déontologie de la police ne conviennent pas à tout le monde ici. Moussa salue, lui, le discours du ministre, mais il faut aller beaucoup plus loin, dit-il.
Ça ne suffit pas, il faut continuer. S'il n'y avait pas de vidéos et des images, par exemple, comment on peut croire ce qui se passe aux États-Unis? Ici en France, parfois, ça peut arriver. Il n'y a pas que la police, mais il y a d'autres institutions. Ce n'est pas la France qui est raciste, ce n'est pas l'État. Mais malheureusement, il y a des gens dans toutes les institutions, il y a des racistes.
Dans la foule, il y a beaucoup de jeunes qui estiment que c'est aussi à leur génération désormais de se mobiliser et qui seront aussi au rassemblement prévu cette fois à l'appel du comité justice pour Adama, ce sera samedi.
Mathilde Oimi avec Jean-André Djadikini à la technique en direct de la place de la République à Paris. Merci à tous les deux. De son côté, la LICRA appelle chacun là où il se trouve à cesser toute activité pendant 8 minutes 46 secondes, le temps qu'a duré l'agonie de George Floyd, un hommage auquel s'associe la République En Marche. Pour autant, pas de manifestation à l'Assemblée nationale cet après-midi, pas de minutes de silence ou de genoux à terre, mais un débat animé sur la police et ses pratiques dans la séquence questions au gouvernement. Ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe, en visite à Évry dans l'Essonne, a tenté un numéro d'équilibriste, à la fois apaiser la colère de tous ceux qui dénoncent ces violences et ce racisme de la police, et en même temps rassurer les forces de l'ordre qui se sentent lâchées par le gouvernement depuis les annonces hier du ministre de l'Intérieur. On peut compter sur la droite, en tout cas, en porte-parole des forces de l'ordre, ça c'est vérifié. vérifier tout à l'heure à l'Assemblée, n'est-ce pas Maxence Lambrec ?
Un boulevard pour la droite, en effet, qui en cognant très fort contre le gouvernement fait oublier ses alliances municipales avec les marcheurs. Virginie Duby-Muller, vice-présidente du groupe LR.
Monsieur le Premier ministre, 107, c'est le nombre de violences que subissent chaque jour nos forces de l'ordre en France. Face à ce constat dramatique, le premier flic de France a choisi de se soumettre à la haine anti-flic, prêt à bafouer la présomption d'innocence pour donner des gages à la haine. Allez-vous défendre l'honneur de la police en refusant qu'elle soit livrée à la vindicte populaire ? Êtes-vous de ceux qui défendent les forces de l'ordre ou de ceux qui veulent la mettre à genoux ?
Le Premier ministre dégaine un triptyque, trois mots-clés, respect, confiance, exigence, pour garder de la hauteur et tenter d'apaiser la polémique.
La France, la police nationale, la gendarmerie ne sont pas racistes. Mais chaque fois qu'un acte ou un propos avéré est raciste, alors il est important que l'ensemble de notre pays réagisse. Vous êtes d'accord sur ce point ? Moi aussi, c'est ce que nous disons. Respect, confiance, exigence. C'est la ligne qui est portée par ce gouvernement et c'est la ligne sur laquelle, toujours, je me battrai.
Une ligne enfin clairement énoncée après une semaine de silence au sommet de l'État.
Maxence Lambrec à l'Assemblée nationale. Des crispations aussi chez les magistrats qui s'inquiètent pour le respect de la séparation des pouvoirs. La ministre de la Justice avait invité hier la famille d'Adama Traoré qui a refusé en bloc. Ce midi, la sœur Assa Traoré a une nouvelle fois pris la parole. On ne veut pas de discussion dans un salon de thé de l'Élysée, mais des actes. Si la ministre veut rencontrer quelqu'un, c'est le procureur. Si quelqu'un doit être convoqué, ce sont les gendarmes. Fermez les guillemets. La famille Traoré, qui Mathilde Dehimi nous le disait, a lancé un appel pour une nouvelle manifestation samedi prochain.
Et donc c'est son meurtre qui a allumé la mèche un peu partout sur la planète. Aux États-Unis en ce moment, les obsèques de George Floyd.
Il doit être inhumé dans la plus stricte intimité, mais avant il y aura eu son cercueil sur une calèche à travers la ville, Houston au Texas, là où George Floyd a grandi. Et puis depuis quelques minutes aussi, l'office religieux devant des milliers de personnes, comme ce Texan qui n'habite pas Houston mais qui a fait la route. Il dit pourquoi à Grégory Phillips, notre correspondant aux États-Unis.
Il n'y a pas que des Noirs ici aujourd'hui. Vous voyez, il y a toutes les couleurs de peau. Ce problème ne concerne pas que les Afro-Américains, mais tout le monde. Et on l'a vu avec ces manifestations dans le monde entier. Ce qu'on veut, un changement. On doit réclamer le changement pour que les minorités soient traitées différemment et pas seulement en Amérique, partout.
Et ce vent d'antiracisme souffle à travers le monde entier. 10 000 personnes rassemblées encore hier à Bruxelles, des Belges qui s'attaquent eux aussi aux symboles. À Anvers, ce geste rare, c'est la ville qui a fait retirer la statue de l'ex-roi des Belges, Léopold II, figure d'un passé colonial meurtrier, époque du Congo belge. Il finira dans les caves d'un musée. À Bruxelles, les précisions de Jérémy Audouard.
La statue blanche trônait sur un petit coin de pelouse d'un quartier tranquille d'Anvers. Elle a été enlevée officiellement pour être nettoyée. Mais d'après le maire, on ne risque pas de la revoir ici. Elle sera probablement envoyée dans un musée. C'est un geste particulièrement symbolique alors qu'une grogne anti-Léopold II touche la Belgique. Une dizaine de ces statues ont été dégradées depuis une semaine. Les auteurs dénoncent la mort de George Floyd et l'impunité des crimes commis par l'ancien roi des Belges entre 1885 et 1908, alors qu'il avait fait du Congo son territoire personnel. Le mouvement prend de l'ampleur, si bien qu'une pétition signée par 60 000 internautes réclame le déboulonnage de ces statues. L'historien Vincent Dujardin dénonce cette idée. Selon lui, il faut absolument conserver ce patrimoine.
Faire table rase du passé ne constitue pas un bon chemin pour favoriser la cohésion de nos sociétés, car l'amnésie n'a jamais favorisé le mieux-être.
Et c'est d'ailleurs l'option choisie par la région de Bruxelles, qui va conserver ses 70 monuments et rues aux références coloniales, mais en y apposant des panneaux explicatifs. C'est dans ce contexte que la ministre francophone de l'Éducation a fait une annonce inédite aujourd'hui. L'histoire de la colonisation sera bientôt enseignée à l'école. À Bruxelles, Jérémy Audouard, France Inter.
Déboulonnage de statues après celle de ce marchand d'esclaves à Bristol, aussi au Royaume-Uni. D'autres têtes vont-elles tomber ? Des militants antiracistes bien déterminés en tout cas à supprimer tous les symboles du passé colonialiste.
Et il y a des suites juridiques au Covid-19 ?
Oui, le parquet de Paris ouvre une vaste enquête préliminaire. Pour homicide involontaire ou mise en danger de la vie d'autrui, une réponse aux 62 plaintes reçues depuis le 24 mars. En grande grande majorité des particuliers qui critiquent la gestion de la crise, le manque de masques, de tests ou de protection à leur travail. Il s'agit de mettre au jour d'éventuelles infractions pénales, explique le procureur. Ça ne concerne ni le chef de l'État, irresponsable pénalement, ni les membres du gouvernement qui, eux, relèvent de la Cour de justice de la République. 15 milliards pour éviter le crash, l'État sort l'artillerie lourde pour un secteur stratégique ravagé par la crise du Covid, l'aéronautique et ses 300 000 emplois directs et indirects. Et puis l'Association internationale du transport aérien, de son côté, a fait ses comptes. Le trafic devrait chuter de 36% à la fin de l'année, du jamais vu. Les pertes des compagnies aériennes pourraient monter jusqu'à 75 milliards d'euros. Les faillites et les plans sociaux qui s'enchaînent déjà, malgré les mesures de chômage partiel. La marque Damar envisage à son tour de supprimer 159 postes en France, la plupart autour de Lille. Et plus généralement, sur le front de l'emploi, les prévisions pessimistes de la Banque de France. Il faudra, dit-elle, 2 ans avant un retour à la normale, avec au moins 1 million d'emplois en moins dans le privé d'ici l'an prochain. Pour faire face à la crise, chacun sa solution. Les uns proposent de baisser les salaires ou de grignoter sur les primes, les jours de congé. Les autres, de taxer davantage les plus riches. Mais à partir de quel stade est-on considéré comme riche? Pas très riche, juste riche. L'Observatoire des inégalités a établi un seuil à 3 400 euros par mois. Claire Chaudière.
Les riches en France constituent, selon le rapport, 8% de la population. Mais pour arriver à ce constat, il a d'abord fallu définir un seuil de richesse en miroir du seuil de pauvreté, soit ici le revenu médian français multiplié par 2, explique Louis Morin de l'Observatoire des inégalités.
Et donc, on aboutit à un seuil, 3 400 euros. Si on n'est pas riche à ce seuil-là, qu'est-ce qu'on est? Bien entendu, on n'a rien à voir avec ceux qui peuvent toucher plusieurs millions par an. Mais enfin, si dans les 8% les plus riches, on n'est pas riche, je ne sais pas ce qu'on est.
Mais la difficulté très française de nommer sa propre richesse ou même de se concevoir comme riche empêche un véritable débat sur une meilleure redistribution, poursuit le rapport. Quant aux ultra-riches, eh bien on apprend qu'ils vivent mieux en France qu'ailleurs.
Le seuil des 1% les plus riches, là on est plutôt aux alentours de 6 000 euros par mois, est très élevé en France. On arrive juste après la Suisse, qui montre bien que les plus riches n'ont pas fui en masse vers d'autres contrées.
Après une augmentation du niveau de vie des riches dans les années 90, puis une baisse à partir de 2010, la tendance, selon l'Observatoire, est sur le point de repartir à la hausse.
Le seuil de richesse, selon l'Observatoire des inégalités, documents et infographies, à retrouver sur notre site franceinter.fr. Toujours les conséquences du Covid, l'interruption des compétitions et notamment des matchs de foot. Le Conseil d'État coupe la poire en deux, pas de reprise du championnat de Ligue 1, pas question donc de jouer en juillet ou en août. Le classement tel quel est validé, en revanche les relégations sont suspendues. Toulouse et Amiens ne descendent pas en Ligue 2, il va donc falloir réajuster le format de la Ligue 1 pour la saison prochaine. On y reviendra dans le journal de 19h.
Et puis Hélène, le confinement c'est de l'histoire avec un grand H.
La preuve, tout ce qui est devenu ou ce qui était devenu indispensable mais quotidien va entrer au musée. Attestation de sortie, souvenez-vous, visière, masque fait maison, casserole et autres cuillères en bois pour symboliser le 20h à la fenêtre. Une équipe scientifique du MUCEM à Marseille va sélectionner les meilleures idées d'ici la fin du mois. Les objets seront ensuite étudiés, c'est très sérieux, par une commission pour faire leur entrée dans des collections nationales. Une grande première et vous savez quoi, ça cartonne. Écoutez Émilie Girard du MUCEM.
Le MUCEM n'avait encore jamais lancé de collecte de cette ampleur et surtout de ce caractère très contemporain, puisque là, on a demandé aux gens de réagir à chaud sur une activité qu'ils étaient en train de vivre. Dès le premier week-end de lancement, enfin moi, quand j'ai ouvert la boîte mail le lundi matin, j'ai vraiment été estomaquée du nombre de propositions qui étaient arrivées, de leur variété, puisque on n'est pas resté sur ce à quoi on pouvait s'attendre, masque ou matériel de protection d'hiver, mais vraiment sur une inventivité, une poésie et une profondeur des textes qui accompagnent les propositions très très importante.
Émilie Girard, directrice scientifique et des collections du MUCEM à Marseille avec Philippe Bocara. Retour à la vie d'avant, cette fois la Tour Eiffel qui rouvre au public le 25 juin, tout un symbole évidemment. Enfin, on vous en parlait ce midi sur France Inter dans le genre monument, c'est la découverte qui fait rêver, un gigantesque site maya dans le sud-est du Mexique, vieux de 3000 ans. Là encore, on voit tout et on vous dit tout sur franceinter.fr.
Hélène Roussel pour le journal, merci beaucoup Hélène, à demain. Nous, dans un instant, à alors que les obsèques de George Floyd se déroulent à Houston et qu'il y a une manifestation aussi à Paris. Nous avons décidé de nous intéresser au sport politique aux États-Unis. Les sportifs de la NFL, de la NBA qui ont pris position, qui ont mis genoux à terre. Il y a beaucoup à en dire et on y viendra. Je vous remets également le téléphone sonne dans l'oreille. C'est en deuxième heure. Allez-y, le standard est ouvert. Ce soir, on parle de l'eau et de son partage. Après le Covid, la deuxième épreuve, c'est la chaleur et la sécheresse. Faut-il une agriculture moins assoiffée ou moins irriguée, des centrales énergétiques moins gourmandes? Qu'est-ce qu'on fait des retenues d'eau? Comment encourager une baisse de la consommation? Éviter des batailles de l'eau comme il y en a dans de nombreuses régions? On en parle ensemble au 01 45 24 7000. En attendant, on a froid.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Et Sébastien Léas, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Au programme, encore des averses pour ce soir, Sébastien.
Oui, on est dans une situation très instable avec de nombreuses averses et des orages en ce moment entre le sud-ouest, le centre-est et le grand-est. Avec la tombée de la nuit, les averses vont se raréfier, mais l'activité va reprendre demain après-midi entre le grand-est, la Franche-Comté, les Alpes et la Côte d'Azur. En Corse, des orages pourront éclater dès le matin. Et sur l'est de la Provence, les orages seront localement accompagnés de grêle demain après-midi. Sur les régions de l'ouest, c'est une perturbation qui va s'infiltrer. La matinée sera pluvieuse en Bretagne, puis l'après-midi, le risque d'averses concernera toute la façade ouest entre l'Aquitaine, la Normandie et la Bretagne. Entre la perturbation de l'ouest et les averses de l'est, on retrouvera une large bande d'éclaircies et de soleil entre les Hauts-de-France, le bassin parisien, les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et l'ouest provençal. Le ciel va quand même se charger l'après-midi entre midi Pyrénées, l'ouest parisien et le Pas-de-Calais à l'approche de la perturbation.
Et décidément, Sébastien, niveau baromètre, thermomètre, ambiance toujours fraîche au programme de demain.
Ah oui, qui sont loin les 30 degrés qu'on observait encore en début de semaine dernière. Les températures de demain resteront globalement sous les valeurs de saison, notamment sur le quart nord-ouest. Il fera seulement 15 degrés à Rennes et au Havre et 16 degrés à Nantes. Prévoyez 19 degrés pour Dijon et Biarritz, 20 degrés à Lille, Bordeaux, Lyon et Nancy, 21 degrés pour Paris, Strasbourg, Nice et Ajaccio. Mais on ira quand même jusqu'à 25 degrés à Marseille et à Montpellier.